Et aujourd'hui, on est à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.
Antoine Lee, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième édition de Rendez-vous Place du Marché. Comme l'été dernier, nous sillonnerons ensemble notre beau pays, du nord au sud, d'est en ouest, et nous irons aussi en Outre-mer. Pour la première de l'été, vous étiez hier avec Aurélie Sfez à La Ciotat, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aujourd'hui, cap sur la Seine-Saint-Denis, nous sommes à Rosny-sous-Bois. Cette ville de 46 000 habitants se trouve à 15 km à l'est de Paris. Être dans le 93 aujourd'hui, c'est un choix délibéré de notre part. Rendez-vous Place du Marché veut aller à la rencontre de tous les Français, quelle que soit sa couleur, ses croyances ou encore sa condition sociale. Avec notre radio itinérante, on veut venir dans les quartiers populaires, même quand les cités ne brûlent pas. On ne va pas se mentir, il y a des problèmes en Seine-Saint-Denis. Dans le palmarès de la violence en France, les 8 premières villes viennent de ce département. C'est aussi le plus pauvre de France, mais on a envie de vous montrer un autre visage du 93. Pas une vision angélique ou naïve, non, plutôt une approche la plus nuancée possible. Tichou Aminata Khan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chorégraphe à la compagnie A par Être. Vous avez grandi en Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois. Pour vous, le 93, ça a été une chance ou un handicap?
Pourquoi le « ou » Ça a été une chance et un handicap, ça dépend de quel côté on se place en fait.
En quoi ça a été une chance et pourquoi ça a été un handicap en même temps?
Parce qu'il y a le regard, et que souvent le regard il est extérieur, et que quand on vient du 93, ce regard se pose sur nous. Donc le handicap il est en lien avec ce regard, mais quand on est à l'intérieur et qu'on le vit, bah, c'est une chance parce qu'aujourd'hui bah, toutes mes ressources viennent de là en fait. Et je pense que c'est la meilleure des écoles, le meilleur des apprentissages.
Tichou, vous partagerez votre regard sur les quartiers populaires. Aujourd'hui, vous êtes venu en voisine sur ce marché de Rosny-sous-Bois, dans le quartier du Bois-Perrier. Alors, c'est un petit marché où les Rosnéens peuvent faire quelques achats de fruits et légumes en semaine. Là, donc, il y a le maraîcher, il y a le poissonnier. Les auditeurs de France Inter ne s'en souviennent peut-être plus, mais ils ont entendu tous les jours le nom de Rosny-sous-Bois, parce qu'elle abritait l'Indien le plus célèbre de France, Bison Futé, de son vrai nom, le Centre National d'Information Routière. Chaque point route était ponctué par cette phrase, en direct du PC de Rosny-sous-Bois. Côté transport, la ville va connaître justement d'ici 2030 une révolution. Elle se trouve sur le passage de la future ligne 15 du métro du Grand Paris. Une aubaine pour des millions de franciliens qui pourront circuler plus facilement, mais un cauchemar pour une poignée de Rosnéens expulsés de leur maison pour laisser place à ce projet. On recevra Fabienne et Nicole, toutes les deux sont concernées par cette situation. Nous parlerons aussi d'écologie en banlieue avec les Fourmis Vertes. C'est une association qui va au pied des cités pour faire de la sensibilisation à l'environnement. Il y aura aussi de bonnes ondes avec ce rendez-vous place du marché à Rosny-sous-Bois avec Making Wave, une radio solidaire implantée au cœur du quartier où nous nous trouvons. Et à l'heure de l'apéro, nous dégusterons un délicieux riz poulet que tout le monde ici connaît. Il est vraiment pas cher et délicieux. Et cet apéro se fera sous des airs de rock folk des années 50, version 93, avec le chanteur Johnny Montreuil. Mais avant, on écoute Barba Gallo avec Regard, choisi par l'ami Djoubaka.
Je te regarde. regarde pas.
Vous écoutez France Inter, c'est rendez-vous place du marché à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Nous sommes toujours au marché du quartier du Bois-Perrier en compagnie de la chorégraphe Tichou Aminatakan. À côté de vous, Marie-Noëlle Botte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de l'association Les Fourmis Vertes. Vous vous rendez au pied des immeubles dans les banlieues pour faire de la sensibilisation à l'écologie dans les quartiers. Ce plateau est aussi composé d'un homme, parce qu'on est beaucoup de femmes aujourd'hui. J'ai invité Johnny Montreuil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes musicien et dans vos chansons folk rock des années 50, vous racontez ce qu'il se passe en banlieue. Et là, sur vos genoux, vous avez votre premier fan, Dino, votre fils. Il a quel âge ?
3 ans.
Ça va, Dino ? On va commencer avec vous, Tichou. D'abord, j'ai envie de décrire votre sweatshirt. Il est magnifique. Il est jaune et avec des inscriptions dessus. C'est écrit en noir, c'est parce que l'on sème que l'on récolte. Mais sème, c'est écrit S'AIM, du verbe aimer.
Oui, en effet, c'est ma punchline, j'aime bien la porter. Maintenant, je porte ma marque de fabrique. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment s'ouvrir à ce qui est en train de se proposer à nous, il faut vraiment ne plus avoir peur d'aimer, ne plus avoir peur de parler d'amour. Et j'ai envie d'investir dans la permaculture de l'humain. À partir du moment où le terreau, c'est cet amour qui nous lie, on y va, quoi. Donc, je mets les mains dans le cambouis, j'y suis, quoi. Et je cultive tout ça avec l'art.
Tichou, vous avez grandi dans le 93 à Aulnay-sous-Bois, pas loin d'ici. Comment s'est passée votre jeunesse ?
En théorie, super, parce que quand t'es jeune et que tu vis ta jeunesse, t'es dedans et c'est juste génial. Après, avec le recul et le regard que je pose dessus aujourd'hui, ça a été un parcours de combattante, un parcours de personne qui a dû à un moment donné faire des choix, s'engager.
Qu'est-ce que vous avez dû combattre ?
Combattre des systèmes, combattre des fonctionnements et combattre cette habitude de nous mettre dans des cases, de se mettre dans des cases, parce que finalement on nous met dans des cases parce qu'on s'y met aussi.
Quelles cases ?
Les cases qui sont en lien avec notre genre, notre race, notre classe, le simple fait qu'on soit Aulnay, que je sois une femme à Aulnay noire, pauvre, enfin tout ce qui va avec cette case qui va bien avec la nomination Aulnay 93. Et c'est vrai que c'est une case dans laquelle je me suis retrouvée, j'ai pas demandé, mais par contre il fallait arriver à trouver comment sortir de cette case. Je suis heureuse d'avoir eu l'art et la danse pour pouvoir avoir une alternative que beaucoup n'ont pas eue. Quand on est dedans, on voit pas ça comme de la délinquance. On voit surtout ça comme un besoin de faire autrement et de faire avec les moyens du bord. La maman que je suis aujourd'hui, j'ai eu ma fille, c'est vrai que j'ai eu besoin de sentir que je pouvais quitter. J'avais l'opportunité aussi, le choix, de quitter le quartier. Et je pense que j'ai eu peur de me dire, et si ma fille n'avait pas les ressources que j'avais eues? Et si c'était pas possible pour elle de voir ce que moi j'avais vu et de peut-être faire d'autres choix? Et c'est un petit peu ce qui m'a motivée à quitter le quartier pour mieux y revenir ensuite. Je reconnais d'où je viens et donc je suis toujours une enfant d'Aulnay, mais qui ouvre sa voie et qui ouvre la voie des possibles en allant aussi regarder ce qui se passe à côté.
Alors, vous enseignez votre art, votre danse. Pour vous, la danse, elle doit tenir quelle place dans les quartiers?
Alors je vais parler de danse parce que c'est le corps et que je pense que le corps ne ment pas. Aujourd'hui, la plupart des gens qui ont des problématiques, c'est des problématiques en lien avec le corps. J'ai accompagné pendant 7 ans des burn-out en entreprise. Le problème, c'est la non-congruence entre ce que je pense et ce que j'agis. Aujourd'hui, on parle de bien-être. Bien-être, c'est d'abord bien agir. Et on n'agit pas autrement qu'à travers son corps, à travers ses cellules, à travers ce qu'on vibre. Et pour moi, c'est super important d'être dans cette conscience. Donc, je parle de la danse parce que c'est un super prétexte de mettre les gens en mouvement, de se mettre en mouvement.
Parmi les élèves que vous avez dans les quartiers, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont plus de mal à utiliser leur corps, à faire bouger leur corps qu'ailleurs ?
Alors dans les quartiers, les jeunes, dans leur réalité, tout leur potentiel, ils sont en alerte, ils voient tout, ils entendent tout, ils savent tout. Et ça, on appelle ça de la multidimensionnalité, on appelle ça de la plurifonctionnalité, on appelle ça HPE, haut potentiel émotionnel ou intellectuel. Mais en vrai, le quartier te permet de développer ses compétences. Ce sont des compétences aujourd'hui, des ressources humaines. Et non, dans les quartiers, j'ai pas ce problème. Par contre, quand je bouge du quartier, oui, je peux dire que les gens, et on le sait, en France, on a des problèmes pour danser, juste pour se tenir droit déjà. Et c'est très représentatif de l'état d'esprit. On est monosclérosé dans une... Voilà, la multitâche, on ne connaît pas. Alors que dans les quartiers, c'est naturel.
Vous intervenez souvent dans les écoles, dans les banlieues. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre à ces jeunes-là ? Qu'est-ce que vous leur dites à travers votre danse, votre art ?
Alors, comme je dis que j'aime bien aller questionner la norme, dans les systèmes dits normés ou normaux, ces jeunes sont souvent des décrocheurs, des délinquants, des ce que tu veux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher en eux quels leaders ils sont. Et du coup, je leur apporte un nouveau regard aussi sur eux-mêmes et qu'ils puissent aussi collaborer, créer des rapports collaboratifs avec leurs professeurs. Donc être considérés, pas pour des élèves décrocheurs, mais pour ce qu'ils sont dans leur plus haut potentiel.
Comment ils réagissent lorsque vous leur dites « t'es pas qu'un décrocheur, tu peux être un leader ».
Ils me regardent d'abord en disant « elle est folle celle-là ». Et après, en fait, avec le travail, les outils et tout le déploiement qu'on fait, il se passe des miracles. Parce qu'ils se découvrent, ils se révèlent, ils se dévoilent et ils se rendent compte que finalement, l'école, c'est pas un ennemi. Finalement, quand on casse toutes ces croyances, on peut commencer à se rencontrer et on peut commencer à aller à vivre ensemble et à être authentique, en fait.
Et vous, Tichou, en tant que femme dans un quartier, comment vous êtes construite ?
Alors, j'ai souvent employé le terme bonhomisé.
Bonhomisé ? Ça veut dire quoi, bonhomisé ?
Alors, à l'époque, bonhomisé, c'était être un petit bonhomme dans le quartier. C'est-à-dire, je me suis, dans un premier temps, dénaturée. Je me suis adaptée. Donc, quelque part, ce qui m'a dénaturée m'a aussi rendue beaucoup, beaucoup plus forte. Et c'est pour ça que tout à l'heure, à la question « est-ce que ça a été une chance ou un handicap ?» à vivre et à dépasser sur le moment, on ne sait pas qu'on a les ressources, donc ça peut être handicapant. Et puis, vu de l'extérieur, ça peut être un handicap. Mais finalement, avec le recul et l'expérience, aujourd'hui, je me rends compte que c'est une grande, grande chance. Et j'en suis ravie.
Tichou, j'avais envie d'avoir votre regard sur les médias et notamment du traitement qu'ils font, que nous faisons des banlieues. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de travailler dans les quartiers, surtout si c'est pour la télévision. Les habitants restent très méfiants.
Et en même temps, est-ce que tu as envie de dire que c'est pas légitime ? Est-ce qu'on leur donne la parole ? Est-ce que souvent on leur demande leur avis ?
Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire.
C'est super, une très belle démarche, mais t'as vu tout le travail de préparation qu'il faut pour mettre les gens en confiance. C'est simple, aujourd'hui on a des problématiques de vivre ensemble. La première chose qui est en lien avec le vivre ensemble, c'est le respect. Et quand les médias viennent dans les quartiers, respecter l'habitant, c'est le prendre en compte, le considérer. Et donc quand tu le prends en compte, tu le considères, il n'y a aucun problème.
Et toi, de quelle façon ? C'est ce qu'on essaie de faire.
C'est déjà de sortir de ces cases. Reconnaître que j'ai bougé, c'est déjà me laisser l'opportunité moi-même d'évoluer et donc de poser aussi moi un nouveau regard. Et ça, c'est le travail des médias. Et si vous ne le faites pas en venant à nous, c'est nous qui venons à vous. Et d'ailleurs, c'est ce que raconte mon parcours.
Marie-Noëlle Botte, je vous voyais écouter attentivement Tichou. Vous connaissez bien les quartiers car c'est votre espace de travail, c'est votre terrain de travail. Vous êtes la directrice des Fourmis Vertes. Il s'agit de quoi au juste ?
De sensibiliser à l'environnement, donc en fait de provoquer un déclic Parce que évidemment, quand on parle d'environnement, c'est tout de suite catastrophique, et c'est catastrophique. Souvent, il y a un fatalisme, un découragement. On se dit que de toute façon, bah, on a bien d'autres galères en premier plan, et qu'il y a bien d'autres coupables aussi, que c'est pas moi, en faisant la vaisselle, qui veux polluer la terre, mais que la politique, les responsables, les usines, enfin, etc., c'est eux les coupables. On essaye de remettre un petit peu tout ça à plat et d'expliquer que on peut tous, on doit tous faire quelque chose à son niveau et que c'est de notre intérêt économique, social, environnemental, pour notre santé aussi, et ce n'est que pour améliorer notre quotidien.
Mais est-ce qu'il y a un manque de conscience en banlieue par rapport à l'écologie ?
Pas plus qu'ailleurs. Enfin, on dirait exactement la même chose si on allait dans le 7e arrondissement. Nous, on transmettrait les mêmes messages.
Pour bien comprendre ce que vous faites, on va écouter un extrait de l'une de vos interventions dans un quartier. Ça se passait à Draveil, dans l'Essonne.
Messieurs, dames, bonjour. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. En fait, on est venu vous parler des déchets. Pendant un an, on jette entre 400 et 500 kilos de déchets par personne.
Vous êtes en plus dans le bon quartier,
oui,
ici.
Il y en a plein. Hein. Quoi, par exemple?
Oh ben je sais pas, les gens ils mélangent tout déjà, et puis le verre, le plastique, la batterie qui pollue tout partout.
Vous allez voir, on peut faire en sorte d'avoir moins de déchets.
Vous habitez le quartier depuis combien de temps, madame ?
Ça fait 10 ans et demi maintenant. À la poubelle en fait, les gens ils mélangent tout. Je crois qu'il y a besoin de temps, parce que les gens, comment ils travaillent en fait ? De matin à soir, ils n'ont pas le temps de faire le tri.
En tout cas, tous les déchets doivent finir
dans la poubelle et pas par la fenêtre.
Comment tu t'appelles ?
Tara Kamel.
T'as quel âge ?
9 ans.
Ici, dans la cité, on parle pas trop d'écologie, de recyclage ?
Non, j'en ai jamais entendu parler. Je passe dans le quartier et tout ça pour aller à l'école et tout ça. Et je vois des déchets par là, par là. Des fois, il y a quelqu'un, il m'a dit, je lui ai dit, mais pourquoi tu jettes ça ? Il y a une poubelle juste devant toi. Il m'a dit, oh, on s'en fiche, on s'en fiche. Je lui ai dit, jette dans la poubelle, je l'ai ramassé, je l'ai jeté.
Bah, faut continuer comme ça, hein.
Merci.
Merci à toi.
À vous, merci.
Il est vraiment très poli, ce jeune Tarek, hein.
Oui.
Est-ce que vous êtes toujours bien reçu lorsque vous faites vos interventions ?
Oui. On n'a jamais eu de problème. Oui, on est bien reçu parce que je pense qu'on ne vient pas avec une science infuse en disant il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Non, on explique les choses surtout en profondeur. Pourquoi ? À quoi ça sert de trier les déchets ? On ne dit pas il faut trier les déchets, on explique pourquoi c'est mieux de trier les déchets.
Vous avez fait des séances et il y avait des jeunes qui, bon, manifestement, dealaient et ils étaient intéressés par vos séances.
Ah oui, bien sûr. Oui. Certains sont intéressés à l'environnement, sont pères de famille, sont préoccupés par leur santé. Souvent, on veut nous cantonner aux enfants en disant c'est bien les enfants, c'est l'avenir, ils vont transmettre à leurs parents, etc. Ben non, nous, notre priorité, ce serait plutôt les adultes. Parce que d'abord, il y a urgence, donc c'est pas pour demain, mais c'est pour aujourd'hui. Et qu'en plus, il faut pas inverser les rôles, c'est les adultes qui montrent l'exemple aux enfants et pas le contraire.
Marie-Noëlle Bott, pour capter l'attention de votre public, vous faites des animations qui utilisent tous les sens. Vous utilisez des exemples très concrets et qui les concernent directement.
Oui, bien sûr, parce que on n'est pas là pour distribuer des brochures qui vont finir à la poubelle ou par terre. C'est de montrer des échantillons, de sentir, c'est très important, surtout pour les enfants justement, d'expérimenter. Si on leur parle de la pollution des déchets par le plastique, on leur fait sentir du pétrole brut. Ils comprennent que les chewing-gums, c'est du pétrole, c'est du plastique. Ça les marque. On leur montre un flacon de mer Méditerranée rempli de petits morceaux de plastique. C'est mieux qu'une photo, ils voient en vrai. Donc, on a des outils comme ça pour étayer nos messages.
Marie-Noëlle Bott, le temps, c'est aussi un problème pour les habitants des quartiers. On a entendu tout à l'heure une maman dans le reportage qui disait « Moi, j'ai pas le temps, je pars tôt au travail, je reviens tard, je prends le RER, j'ai 3 heures de transport par jour. » Enfin, c'est ça leur réalité aussi.
Oui, mais la réalité, c'est tout le monde va dire qu'il n'a pas le temps. Tout le monde. Des jeunes, on leur dit, il vaut mieux laver une salade plutôt que de l'acheter sous plastique déjà lavé. ils nous regardent en disant mais ça va pas, j'ai pas le temps. Râper des carottes, mais ça va pas, j'ai pas le temps. On a le temps de rien, on a le temps juste de passer des plombes devant son ordinateur et son téléphone. Mais voilà, la vie où on prend le temps de faire la cuisine, de bien vivre finalement, oui, ça prend du temps.
Tichou, vous êtes écolo, vous, pas?
Bah, j'ai connu la réalité de l'écologie très tard. J'avais aucune conscience de ça. Et effectivement, dans ma tête, c'est que de toute façon, tout va finir planqué quelque part dans la mer ou en Afrique, au Sénégal, dans un des quartiers lointains là-bas. Et donc, j'avais pas du tout cette conscience de la proximité et de l'écologie. Voilà. Et dans le quartier, quand ils ont commencé à parler du tri, je me suis dit « Waouh, c'est un miracle !» C'est un miracle parce qu'il y a tellement de quoi faire. Et du coup, du côté de chez ma belle-mère, ils ont une résidence privée là, du côté des Merisiers. Et en fait, dans la poubelle, ils leur ont donné un grand sac pour faire le tri, pour mettre carton, papier et boîtes de conserve recyclables. Et puis mon enfant est venu en me parlant, maman, tu sais qu'avec 236 canettes, on peut faire un fauteuil roulant. Et puis ça commençait à me faire des maths et à me dire, mais en fait, c'est super intéressant de voir que d'un côté, ma belle-mère, donc qui est une maman, elle est sensible en lui donnant un sac, un truc pour la maison. Et puis de l'autre côté, les enfants les sensibilisent en leur parlant de fauteuils roulants, de vélos, de trottinettes. Et je trouve que, moi en tout cas à mon époque, il n'y avait pas du tout cette sensibilisation. Et je crois que c'est une question d'éducation. Et quand les gens sont éduqués, que ce soit les femmes, les enfants, les jeunes, les dealers, les pas dealers, les gens bien, enfin, toutes les personnes qu'on aime, ben, il suffit de prendre le temps. Et prendre le temps, c'est important.
Tichou, à Rony, il y a quelqu'un que tout le monde adore, c'est Christine Piazza. Elle a ouvert il y a 5 ans un café-restaurant associatif, c'est l'Osteria. Chez elle, le maître mot, c'est la convivialité.
France Inter. Rendez-vous, place du marché.
Je suis en train de vous faire un café.
Parce que c'est gentil, ça.
C'est le meilleur de la région, il vient direct d'Italie.
Génial.
Il vient directement de chez moi et il est vraiment exceptionnel. On est dans la salle principale, qui n'est pas une salle de restaurant, mais qui pourrait être pour moi et pour vous tous, une salle à manger faite de briques et de brocs, de choses récupérées, données, offertes.
Il y a des vieux disques vinyles, là, des 45 tours. Je t'aime un peu trop, de Chouki et Aviva, je connais pas.
Alors pour la culture des gens, il y a des livres qui sont à disposition, des livres d'auteurs, des bandes dessinées, enfin des livres tout. Quand c'est des livres un petit peu qui n'en valent pas la peine, on fait des hérissons avec du papier, on recycle tout.
En fait, chez vous, c'est pas qu'un restaurant.
Ah non, mais c'est surtout pas un restaurant. Le restaurant, c'est de midi à 14h. Après, c'est fini. Après, c'est plus un restaurant. Après, c'est un lieu de rencontre en tout bien et tout honneur. C'est pour ça qu'on avait fait la table des tout seuls qui est là. C'est
la table des tout seuls.
La table des tout seuls, ça veut dire que je n'aime pas les gens qui mangent tout seuls. Ça m'énerve. La table des tout seuls, c'est les gens qui sont tout seuls. Bah, comme j'ai que des grandes tables et pas des tables de bistrot comme on voit dans Paris, qui sont des tables de deux où tout le monde est serré. Mais voilà, donc je les mets, je les entassais.
Et en fait, vous voulez créer du lien, que les gens se rencontrent.
Mais ça a marché. Puisqu'il y a eu ici, sur cette table, des gens veufs, célibataires, garçons, filles, vieux, jeunes, qui sont devenus une bande de copains, comme quand on était ados.
Vous êtes hyper généreuse, il paraît même qu'on vous appelle Mère Teresa.
Non, on m'appelait Mère Teresa, c'était ma famille qui m'appelait Mère Teresa quand j'étais ado, parce que je m'occupais toujours un peu des gens et tout. J'ai un caractère bien trempé, mais ça se passe bien avec tout le monde.
Il paraît que le quartier était un peu craignos.
Il était chaud avant qu'on arrive parce qu'il y avait un café, oui, où il y avait quand même du trafic et les gens passaient par une autre rue pour pas se faire importuner. Oui, il était c'était très mal famé. Nous, on est arrivés, on a tout assaini. Avec la libraire, bien sûr, qui a pris la place du café. Puis au lieu d'avoir des gens qui boivent, ben, il y a des gens qui lisent. Et c'est plus sympa. Il y a un piano, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a un piano où les musiciens jouent parce qu'on a des grands musiciens qui viennent.
Il marche, donc
Ne me faites pas jouer du piano parce que je ne suis pas une artiste. Voilà, stop. Et ce qui est sympa, voilà ce que je veux vous dire, c'est qu'on fait le grand écart au niveau de la musique. C'est-à-dire qu'on peut avoir une jeune femme qui fait de la chanson lyrique et peut-être que deux jours après, on a du punk. Ce que j'aime ici, c'est justement qu'on ne se lasse pas parce qu'on fait des trucs différents et j'aime pas faire la même chose, moi. Donc on passe de la musique différente au théâtre, aux tricoteuses... ces dames âgées qui viennent et qui apprennent aux jeunes et aux garçons qui ne savent pas tricoter à tricoter. Et c'est ça que j'aime justement. Les grands écarts, le fait que bah, je m'ennuie pas, quoi. Je m'ennuie pas parce que c'est tout est différent.
C'était Aretha Franklin avec Respect. Vous êtes sur France Inter, c'est Rendez-vous Place du Marché à Rosny-sous-Bois en Ile-de-France. Pour cette émission, on a beaucoup de femmes. On est en compagnie de la chorégraphe Tichou Aminata Khan, Marie-Noël Bott pour l'association Les Fourmis Vertes. On accueille Amélie Billot. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez fondé Making Wave, qui permet de faire de l'insertion par la radio. On reçoit également Fabienne Boulet et Nicole Lecellier et son mari Roger, habitantes de Rosny-sous-Bois. Bonjour.
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 Fabienne, Nicole, Roger, on vous a invité car vous vivez un cauchemar depuis que vous avez reçu l'été dernier une lettre de la Société du Grand Paris. Le Grand Paris, c'est le métro qui va faire le tour de la banlieue d'ici 2030. Que disait cette lettre pour qu'elle fasse basculer vos vies ?
Quand nous avons reçu cette lettre, nous avons appris que la Société du Grand Paris comptait acquérir nos parcelles pour installer un ouvrage qui allait servir à la ligne 15.
Quand vous dites parcelles, ce sont vos maisons.
Oui, enfin, eux parlaient de parcelles parce qu'il y avait eu au préalable un premier projet qui devait en fait passer sous nos parcelles, sous nos terrains. Et dans ce cas-là, nos maisons restaient en place. Et là, ce projet dont personne n'avait connaissance, nous l'avons appris par une lettre ordinaire. Même
pas recommandée.
Non, même pas recommandée, adressée à chaque propriétaire. Nous avons besoin, le Grand Paris a besoin de vos parcelles et voilà, on a appris comme ça qu'ils allaient nous exproprier. Mais ils ne voulaient pas parler d'expropriation, hein, c'était pas le terme employé. Ils avaient besoin de nos parcelles, ça nous faisait comprendre qu'il fallait qu'on s'en aille.
Roger, Nicole, vous habitez dans votre maison depuis combien de temps ?
Depuis 53 ans. Nous avons emménagé en mai 68, pendant les grèves de mai 68.
Cette maison, vous l'aviez achetée à
non.
quelqu'un ?
Nous avions acheté le terrain et nous avons construit en famille, avec mon père, mon beau-père et mon frère.
Mais quel choix vous laisse la Société du Grand Paris ?
Aucun. Aucun. Il leur faut cet espace-là, les 25 parcelles, pour mettre cet ouvrage.
Ils viraient tout le quartier.
C'est combien de familles, tout le quartier ?
25 familles, plus un cabinet dentaire.
Une supérette.
Une supérette.
Quelle est la moyenne d'âge de ces familles ?
Entre 60 et 88 ans.
Vous, Nicole, ça vous fait quoi de devoir quitter votre maison ?
Je n'y pense pas. On n'y pense pas, on attend. On espère bien
ne pas la quitter parce que c'était, c'est pas pensable.
Nous avons entretenu la maison pour nos vieux jours et arrivé à nos vieux jours, nous, on nous dit de dégager. Le, hein. Donc ça, on ne l'accepte pas.
Vous, Fabienne, ça vous fait quoi de devoir quitter cette maison ? Prenez votre temps. Vous voulez faire une petite pause ? Est-ce qu'on peut apporter un verre à Fabienne, s'il vous plaît ? Ça va mieux ? Ça va ?
En fait, nous, ça nous a complètement anéantis. Parce que c'est une maison que l'on a voulu préparer pour nos vieux jours pendant que nous étions encore en activité, c'est-à-dire les dernières années aux alentours de 60, 65 ans, âge auquel nous avons pris notre retraite. Nous avons investi pour ne plus avoir rien à faire dans cette maison en vieillissant, déjà parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que quand on travaille. Et puis ça nous tombe dessus, à nous comme aux autres. Et puis alors, il y a une chose surtout, c'est que cette décision, elle a été prise sans que le quartier en soit informé. C'est-à-dire que au niveau de la mairie, la décision a été connue, mais elle a été cachée aux habitants qui l'ont appris par cette lettre tout à fait ordinaire fin juillet, précisément, en période estivale où certains n'étaient même pas chez eux. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis après, on a bien compris que c'était la réalité. Pour 190 mètres à peu près de rail gagné, hein, ça doit être à peu près ça, on n'hésite pas à mettre en péril 40 personnes âgées qui ont passé leur vie dans ces maisons, élevé leurs enfants, ont tous leurs souvenirs là-dedans. Et on vous dit de partir en laissant tout, quoi. Vous partez avec vos affaires, mais votre maison, elle est remplie de tous ces souvenirs et ça, vous ne les emporterez pas, ils sont détruits. Ils vont partir avec la bâtisse.
Petit chou, il y a une réalité. Moi, j'ai souvent entendu les gens des banlieues me dire que c'était trop compliqué de se déplacer sur Paris, qu'il n'y avait pas de transport adapté, en fait, que c'était une façon de les enclaver. Donc là, le projet du Grand Paris, c'est justement donner de la facilité pour les gens de se déplacer.
Le monde, ok, mais là, le comment tu fais les choses, en fait le projet du Grand Paris, c'est le projet du Grand Paris si on inclut les gens qui sont en périphérie, qui vont pouvoir rentrer dans le Grand Paris. Mais on ne leur propose pas d'être inclus dans le Grand Paris, on leur dit, dégagez, on a besoin de votre parcelle. C'est de la gentrification, c'est de l'insertion, c'est de l'intégration, c'est de la désintégration. Il n'y a pas de respect, quoi. Il n'y a pas de respect. On parle de projet, on parle d'écologie. C'est quoi le Grand Paris si on ne respecte pas les gens qui sont là ? C'est un truc inadmissible. Et en plus, l'isolement, c'est-à-dire qu'on isole les gens. Donc là, il n'y a que 40 personnes. Il n'y a pas d'assos, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de mouvement derrière ça. On a isolé la culture, on a dit qu'ils ne sont pas essentiels. Là, on isole nos vieux, on dit qu'ils ne sont pas essentiels. Et puis, on fait un grand pari, soi-disant. C'est un grand pari, c'est un combien contre combien ? C'est un 5 contre 1. Et derrière ce projet, il y a tellement, tellement, tellement d'inhumanité, en fait. Donc moi, j'ai envie de dire, remettons l'humain au cœur des projets. Et là, on va pouvoir faire des grands projets ensemble.
En tout cas, Fabienne, Roger, Nicole, on vous souhaite beaucoup de courage. Et pour ça, on va vous transmettre de bonnes ondes avec Baking Wave d'Amélie Billot. C'est une radio solidaire, un atelier chantier d'insertion par la radio. Vos locaux et votre studio sont situés au cœur de la cité où nous sommes. Expliquez-nous concrètement, Amélie, ce que fait Baking Wave.
Alors Baking Wave, c'est une association donc effectivement à Rosny-sous-Bois dans le quartier du Bois-Perrier, et c'est une association qui rassemble des gens de parcours très différents. On a souhaité créer un dispositif, une structure, faire du collectif. Je partage évidemment complètement ce que disait Tichou, pour mettre l'humain au centre. Donc on a rassemblé des gens qui viennent de plein d'horizons différents, à la fois de la radio, de Radio France. Il y a des gens qui viennent des travailleurs sociaux, des gens qui ont travaillé dans la solidarité internationale, et tous ensemble on s'est dit, ok, il y a peut-être quelque chose à imaginer ensemble, à créer un espace, un dispositif qui permette de faire émerger des paroles, des voix, des avis qu'on n'entend pas et qui a tout un effet d'éviction. On parlait de gentrification tout à l'heure, mais ça se passe exactement de la même façon dans l'accès à la parole. Et il nous semblait important d'essayer d'imaginer un dispositif qui fasse émerger ces paroles-là.
Combien de personnes bénéficient de ce dispositif ?
Alors, Making Waves s'organise autour de trois pôles. Il y a un pôle ONG, où là, on va travailler beaucoup dans les pays en développement pour créer, aller implanter des radios dans des pays où ça peut être intéressant et important de mettre en accès et de faire parler des populations en situation vulnérable. On a un pôle studio création, où là, on travaille avec des réalisateurs. Et puis, le chantier insertion, donc, qui emploie 8 salariés en insertion, qui travaillent avec nous sur tous les projets.
D'ailleurs, ils sont tous venus ce matin vous soutenir pour cette émission. À côté de vous, il y a l'un d'entre eux, c'est Rodrigue. Bonjour Rodrigue.
Bonjour.
Vous, quel est votre parcours? Comment vous avez atterri chez Making Wave?
Alors moi, c'est un parcours, on va dire, assez atypique parce que je suis en ce moment en semi-liberté. Donc j'ai eu affaire à la justice par rapport à mon passé, mon parcours.
Qu'est-ce que vous avez fait? On peut en parler ou...
Enfin, j'ai été tenu pour responsable d'un trafic de stupéfiants assez important. Et à partir de là, j'ai été condamné. Et cette condamnation m'a fait réfléchir sur ma vie, mon parcours. Et je me suis dit qu'il fallait que j'utilise mes compétences, tout ce que j'avais acquis, pour pouvoir, on va dire, rebondir et essayer de plus avoir affaire à la justice. Ce qui fait que je me suis tourné vers Making Wave.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet, justement? Lorsque on vous a dit, tiens, il y a une possibilité d'intégrer Making Wave.
C'est plus le fait que c'est un peu une révolution dans le monde des chantiers d'insertion. Parce que quand on parle de chantiers d'insertion, généralement, c'est plus des métiers manuels. Et le fait que ça soit de la radio, qu'on doive utiliser son cerveau et qu'on puisse ne pas être cantonné à un endroit, mais être assez mobile, ça m'a plutôt plu, ouais.
Amélie Billot, par exemple, parmi les 8 qui ont été sélectionnés, il y a Rodrigue, donc, qui a connu la prison. Quels sont les autres profils, parcours?
Alors, il y a différents parcours. Il y a des personnes qui étaient au chômage depuis longtemps et qui, du coup, étaient éloignées du retour à l'emploi. On a des personnes qui sortent d'un parcours de rue. On a des personnes qui ont arrêté leurs études. On a des personnes qui, pour plein de raisons, se sont retrouvées en situation d'éviction par rapport au marché de l'emploi. On n'est pas tous égaux pour avoir accès et pouvoir candidater, avoir les mêmes atouts pour candidater. Et du coup, nous, on va travailler là-dessus. Et puis, dans le cadre de leur embauche au sein de Making Waves, ils sont accompagnés par toute une équipe sur les métiers de la radio, mais aussi pour travailler les problématiques sociales qui peuvent empêcher d'avoir accès à un emploi comme n'importe qui.
Rodrigue, comment ça se passe pour vous, cette formation-là, chez Making Wave, cette formation en radio?
C'est plutôt cool. L'ambiance, on va dire que c'est un peu start-up. Tout le monde s'entend bien. C'est pas de la langue de bois, c'est vraiment ce qui est. Il y a une bienveillance, il y a un soutien mutuel. Tout le monde arrive avec son parcours, avec un peu sa touche. Et je pense que c'est important de pouvoir se confronter à cette mini-société pour pouvoir justement être à l'aise dans la société de manière générale.
Vous, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez appris?
On apprend à monter des podcasts, déjà.
Vous avez fait un podcast sur quoi?
Sur le coaching en développement personnel. Parce que c'est justement ce que je projette de faire. C'est pour ça que je me suis aussi rapproché de Making Wave, parce que je leur ai vendu mon projet, qu'ils ont accepté. Ils m'ont vendu le leur, que j'ai accepté aussi. Donc voilà, moi, par rapport à justement tout mon vécu, je pense pouvoir apporter les armes aux gens pour pouvoir révéler la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que je me lance dans le coaching en développement personnel et que justement Making Wave pourrait, en plus d'être un tremplin pour ma vie, on va dire quotidienne, serait une très bonne vitrine pour moi.
Le trafic de stup, ça a l'air loin là, derrière vous là.
Honnêtement, pas tant que ça.
Comment ça, pas tant que ça?
Non, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai plus la même conception de la réussite. Quand je me donnais à cette activité, je me disais que réussir, c'était avoir beaucoup d'argent. C'est ce qui faisait de moi quelqu'un d'important. Alors qu'aujourd'hui, je pense que ma conception de la réussite, c'est plus être stable. Et je pense que ça passe aussi par le fait de ne plus avoir affaire à la justice.
Amélie Billot, c'est aussi ça, en fait, l'ambition de Making Wave. C'est pas juste transmettre des notions techniques radiophoniques. Ça va bien au-delà.
Absolument, c'est exactement ce qu'on disait là, c'est aussi donner la parole. On voit le pouvoir qu'a un micro. Là, d'un coup, vous me tendez le micro, toutes les personnes autour m'écoutent, ma parole, d'un coup, elle devient légitime, elle devient audible. Et c'est ça, tout l'enjeu. Donc, on considère que le micro, la radio, ça a un vrai pouvoir responsabilisant et réparateur. D'un coup, j'ai le droit de parler. D'un coup, j'ai quelque chose à dire au monde, et c'est tout ça qui anime le projet de Making Waves. Et puis aussi, pour toutes les personnes, parce que toutes les personnes qui sont avec nous n'ont pas vocation à faire de la radio ou à devenir journaliste, mais par la radio, on apprend aussi plein de choses qu'on appelle les compétences transférables dans le milieu de l'insertion.
Et c'est quoi ?
C'est par exemple, ne serait-ce que d'apprendre à écouter d'abord. Savoir écouter, savoir entendre ce que dit mon collègue, savoir entendre ce que me dit le client à qui je dois livrer ma commande, savoir répondre à savoir poser les questions, savoir organiser, structurer ma pensée. Là, d'un coup, l'émission, elle a été préparée, il y a un conducteur, et ben là, du coup, c'est quand on fait cet exercice-là, c'est comprendre aussi quelle est la demande de mon client, comment je lui réponds, etc., etc.
Rodrigue, est-ce que c'est pas finalement la première fois qu'on vous donne la parole ? Est-ce que c'est pas la première fois que vous avez l'opportunité de prendre la parole grâce à ce projet Making Wave ?
Le fait d'ouvrir les vannes, on va dire, à un public dont j'appartiens, je pense que c'est important. Parce que généralement, les gens, ils le font pas par cupidité ou par avidité. C'est plus par nécessité. Et le fait de pouvoir l'expliquer, je pense que ça peut les faire avancer aussi.
On sort de la cage du jugement, on sort de toute cette notion de culpabilité, de jugement, et du coup la notion d'appartenance aussi, parce qu'on appartient à ces quartiers, on appartient à tout ça. Et qu'est-ce qui nous rend fiers ? C'est pas juste un Moussa Sissoko, ou je cite mon pote Tchenche, mais c'est vraiment la réussite aussi... avec toutes ces petites personnes qui sont là, des voisins, des voisines, et qui eux aussi ont des potentiels, des ressources à partager. Et quand je t'entends parler, je te trouve vraiment grand, quoi. Ça me touche vraiment. Et comme aussi ça me touche de me dire, et là je fais un appel à toutes les personnes qui sont en capacité, en mesure aujourd'hui de venir voir ce qui se passe du côté de chez vous, par rapport à votre expulsion injustifiée et injustifiable.
Fabienne, Nicole et Roger.
Je trouve que c'est ensemble. Aujourd'hui je crois que plus que jamais, la punchline de tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, j'ai envie de dire ensemble on va vraiment plus loin et on va vraiment plus haut, quoi. Et donc j'ai envie de nous dire soyons ensemble. Et donc s'il y a des personnes aujourd'hui qui ont les compétences et l'envie de venir voir votre histoire et de venir accompagner votre combat, welcome en fait. Et moi je serai au premier front.
Amélie Tichou, c'est bientôt l'heure de l'apéro. On va déguster tout à l'heure un plat qui cartonne ici, c'est le riz poulet. Et on écoutera de la musique avec Johnny Montreuil, un musicien qui fait du rock folk et qui raconte ce qui se passe en banlieue.
Mantle ya ka khanwa ke mathata monna wa ha mo jela o se jela wa
Blackjack avec Harare.
France Inter. Rendez-vous place du marché. Antoine Mie.
On est toujours à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, dans le quartier du Bois-Perrier. Nous sommes toujours en compagnie de Tichou, Nicole, Fabienne et Amélie, sans oublier Johnny Montreuil, qui va nous jouer dans quelques instants un extrait de son dernier album, Narvalo Forever. Mais avant, c'est l'heure de l'apéro, l'occasion de déguster un plat qui cartonne ici. C'est du riz, visiblement, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, du riz à la sauce tomate avec du poulet. Tichou, c'est comment ?
Ça déchire, c'est sexy.
Fabienne, vous l'avez goûté ?
Oui, c'est succulent. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans comme épices, mais c'est vraiment extraordinaire.
Alors ça vient d'un endroit qui vient d'ouvrir, et sachez que le plat de riz, le gros plat de riz, plus le poulet, plus une boisson, c'est 5 €. Vous, chez Making Wave, vous y allez souvent, je crois.
Ah ben nous, on y va tous les midis. Hein. On va chercher notre portion de riz ou pommes de terre et notre morceau de poulet, et on se régale tous.
Pour un prix imbattable de 5 €, le riz, le poulet et la boisson.
Exactement. Et puis du coup, c'est un lieu où tout le monde dans le quartier du Bois-Perrier va. Donc du coup, c'est l'occasion aussi de croiser les voisins qui vont aussi faire comme nous, chercher leur morceau de poulet.
Comme promis, on retrouve Johnny Montreuil. D'abord, pourquoi Johnny ? Pourquoi Montreuil ?
Johnny, pour Johnny Cash au départ, et Montreuil, ma ville d'adoption, sans référence vraiment plus large à toute la banlieue parisienne. Johnny Montreuil.
C'est vrai que ça claque comme nom. Alors juste là, je vois, là, vous portez un Marcel, un jean noir, des Santiago, et surtout vous avez sur l'épaule un super tatouage. On voit une caravane sur laquelle c'est écrit famille dessus.
Ouais, ouais.
Carrément la caravane.
Les retrouvailles, oui, c'était ça, c'est une petite coquetterie.
Et dans vos chansons style rock folk, vous racontez votre banlieue. C'est important pour vous, vous y êtes attaché.
C'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis né. Il y a toute une culture liée à cette banlieue parisienne, les jardins ouvriers, les cités. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres humains là-dedans qui ont des petites vies simples, qui ont des vies très, très humaines, très profondes, avec pas grand-chose. Et je vois énormément de poésie là-dedans, en tout cas, et c'est mon quotidien surtout. Donc, pas besoin d'aller chercher très loin pour rêver, pour me sentir touché, profondément ému et touché, comme ce que je viens d'entendre tout à l'heure. Par ce genre d'histoire.
Avec Fabienne, Nicole et Roger, qui vont devoir quitter leur maison.
Ouais, j'espère qu'ils ne le quitteront pas. Pour moi, il y a toujours de l'espoir. J'ai grandi avec des mots écrits dans mon appartement, où la vie d'un ouvrier ou d'un être humain vaut plus que tout l'or du monde. Et je pense que ce n'est pas de l'utopie, en fait. Il faut juste penser que c'est. Rien n'est jamais impossible. Moi, je ne suis pas pessimiste. Il faut juste trouver les durites à couper dans ce rouleau compresseur. Et le rouleau, il s'arrête. Voilà.
On va apporter un petit peu de joie et de bonne humeur grâce à votre musique. Vous avez accepté de nous jouer un extrait de votre dernier album, Narvalo Forever. Ça veut dire quoi, Narvalo ?
Narvalo, c'est un mot très courant à Montreuil, en fait. Donc c'est une expression qu'on utilise un peu à tort à travers. Ça vient du manouche. Il y a une grosse communauté, une grosse culture manouche à Montreuil notamment, dans le 93 aussi. Mais un narvalo, c'est un mec qui est pas normal, quoi. Un mec, ça vient de Nasvalo, un mec qui a des problèmes de santé, même, qui est malade. Donc par extension, un narvalo, c'est un mec qui est un peu cintré, qui est un peu déglingo dans sa tête, mais qu'on a rien à foutre.
Denis Montreuil, vous êtes à la contrebasse et au chant, et avec vous votre complice Kik Liar à l'harmonica. On vous écoute. Yeah.
Sorti 5 minutes, on pensant à mes potes, à leurs bons souvenirs quand on se taillait des shorts, à leur visage si doux devant ma porte. Aujourd'hui condamné, mes amours sont mortes. Je suis sorti 5 minutes pour sentir le vent frais, caresser mon visage, balayer mes regrets, pour qu'ils me disent alors ce qui nous arriverait si tous ces gros affreux enfin disparaissaient. Sorti 5 minutes, les rues étaient désertes. Certains disent que c'est bien, moi je trouve ça infect. Hurler sur mes voisins, leur prendre un peu la tête, ça faisait même du bien, mais c'est fini la fête. J'suis sorti 5 minutes, comme ça sans me cacher, par règle à l'air libre, sans leur maudit papier. Mon pied sur les épaules, l'entendre se marrer, le regarder courir, se cogner, se vautrer. Sorti 5 minutes, juste pour reprendre la route, bouffer enfin du bitume sans retour, rien à foutre, mettre le son à fond, sans me soucier de personne, me refaire un petit concert sans attendre l'automne.
Yeah, Ronnie, oh, oh.
J'ai sorti 5 minutes en pensant à mes potes. J'ai sorti 5 minutes, oh mes amours sont mortes. J'ai sorti 5 minutes pour sentir le vent frais. J'ai sorti 5 minutes, mais tout disparaissait.
C'est génial, il y a votre fils Dino qui vous saute dans les bras, Johnny Montreuil. Petit chou, vous pouvez pas vous empêcher. Hein. Dès qu'il y a un peu de musique, là, vous dansez, là, vous avez breaké sur le sol, vous avez fait du hip-hop.
C'est pas dès qu'il y a de la musique, c'est dès qu'il y a du sens. Voilà, le hip-hop, c'est le MC, c'est celui qui raconte. Tu vois, c'est celui qui raconte ce qu'il voit. C'est la musique sur laquelle on se pose, c'est le beatbox. Là, c'est pas un beatbox, c'est un harmonica et une contrebasse. Mais c'est ce qui nous permet de nous poser dessus. C'est le corps, c'est le danseur. Et pour moi, c'est ça le hip-hop. C'est vraiment s'éveiller en mouvement, être ensemble et changer déjà notre monde intérieur. Et comme tu l'as dit si bien, c'est retrouver le sourire, quoi. Avec, voilà, c'est pas un combat, c'est combattre autrement, donc c'est entreprendre finalement. Donc voilà, et ça me touche grave.
C'était super en tout cas.
Merci.
Je ne sais pas si quelqu'un a fait la vidéo, mais si c'est le cas, on la mettra sur le site de Rendez-vous Place du Marché. Johnny Montreuil, vous au départ, bah, vous venez pas du 93, vous venez du 92 des Hauts-de-Seine.
Exactement, je viens de la cité de la Plaine, au Petit Clamart. Une première cité jardin, quand même des espaces verts, le bois de Clamart pas loin. Mais un lieu construit sur des champs, des petits pois, un peu en grande banlieue, quoi. Cité dortoir, où il n'y a pas grand-chose, en fait. Où tu vois, où au départ, ce qui est écrit, c'est que tout ce que tu vois qui brille, c'est loin, et c'est pas accessible pour toi. J'ai appris la guitare à la MJC de mon quartier au début, et puis rapidement, je suis parti. Et
vous avez atterri à Montreuil.
J'ai atterri à Montreuil il y a plus de 15 ans maintenant, et j'ai retrouvé la même population métissée avec laquelle j'ai grandi. Cette population et ce métissage qui me manque énormément quand je l'ai pas avec moi, en fait. Et un regard, ça suffit. On sait d'où on vient, on sait avec qui on est. Et ça, j'ai retrouvé à Montreuil cette population-là avec beaucoup plus d'espoir et de possibilités. C'est-à-dire que le Bas Clamart, la ville, le centre-ville, c'était la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, mort, calme, des grands pavillons, etc. Et à Montreuil, il y a un centre beaucoup plus populaire, en fait. Et avec, vous savez, c'est ce truc esthétique un peu qui n'est pas juste réservé à cette classe de la population. Voilà, sans parler forcément de lutte des classes ou quoi, c'est à Montreuil, tout est possible. À Montreuil, on descend de sa cité, on descend à la ville. Dans les années 80, le maire a fait venir beaucoup d'artistes dans les anciennes usines affectées. Il y a un espèce de métissage artistique très, très, très riche. Moi, il y avait un café pour 3 communes.
À Clamart.
À Clamart, donc c'était entre Fontenay, Clamart, Châtillon. Ils étaient côte à côte, quoi. Donc on passait de l'un à l'autre. Il y a plein de rockers, il y avait plein de musiques différentes. C'est moins sclérosé peut-être qu'ailleurs. Et il y a cette identité forte de sentir fier, entre guillemets, d'être Montreuilois. On n'appartient pas à telle ou telle communauté. On est Montreuilois. Et il y a ce truc-là. Et il y a énormément de bienveillance également.
Et à Montreuil, vous avez découvert la culture manouche, tout groupe confondu, la population de Zigane, celle des gens du voyage de la Seine-Saint-Denis, est évaluée entre 12 et 14 000 personnes. Roms, manouches, gitans font tous partie d'une même communauté Zigane. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette culture-là ?
Je suis pas allé à la rencontre, hein. Je suis arrivé avec ma caravane, chercher un endroit pour me placer. Je suis arrivé dans les murs à pêche, j'ai découvert la vie en caravane, j'étais à côté d'un camp de Roms. Qui était à cet endroit-là pendant 3-4 ans, on a cohabité, voilà. J'étais avec ma petite fille, je me suis battu parce que j'avais un terrain à défendre, j'avais une zone à défendre autour de ma caravane. On s'est rencontrés, on a apprécié, on s'est aimés comme n'importe où en fait. Mais avec quand même cette dimension-là, quand on se retrouve ailleurs, on sait ce qu'on a vécu ensemble et on est et au nom de quelque part d'une forme de certaine liberté et de différence, de pas se laisser dire en tout cas comment on doit vivre, comment on doit penser. Ce mode de vie-là qui est quand même particulier, qui n'est pas un choix par défaut me concernant.
Dans la caravane ?
Ouais, la caravane, c'est presque un hasard au départ, mais c'est quelque chose que j'ai... Les premières fois où je me suis réveillé le matin, je savais, je peux être boucher, charcutier, ce que tu veux, je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je fais, j'ai pas grand-chose, je suis bien, ça me va. Je dis pas que ça va à tout le monde ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je me sens... c'est une vraie source d'énergie de pas accepter ce qu'on a décidé pour moi au départ, et c'est moi qui décide, en fait, c'est tout.
Merci beaucoup Johnny Montreuil, merci à tous. Tichou, vous serez en août à Saint-Béat dans les Pyrénées pour co-créer le festival Solarium. Johnny Montreuil, vous serez quant à vous au festival du fromage de chèvre à Courzieux le 22 juillet, le 29 à Paris au Cabaret Sauvage et le 30 à l'île d'Oléron. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert, elle a été préparée par Irène Ménahem. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Demain, vous retrouvez Aurélie Sfèze à Corté en Corse.